Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le dimanche 25 mai, vous écoutez le programme en français sur la radio SBS. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer 7 heures ensemble, je vous remercie pour votre présence. Et comme tous les dimanches, on commence par le personnage de la semaine. Notre personnage de la semaine, mesdames et messieurs, c'est Roland Garros, puisque les internationaux de France de tennis débutent ce dimanche. Alors étonnamment, sachez que ce nom, Roland Garros, ne renvoie pas à un champion de tennis. Mais alors, qui était Roland Garros? Que faisait-il dans la vie? Pourquoi son nom est désormais synonyme d'excellence dans le domaine du tennis? Eh bien, on découvre qui il était. Son portrait est signé François Vantôme.
Et oui, le nom de Roland Garros ne renvoie pas à un champion de tennis, mais plutôt à un aviateur qui a marqué l'histoire de manière significative, bien loin des cours de la terre battue. Il est surprenant que le nom d'un aviateur ayant principalement fait sa renommée dans le ciel soit lié à un stade de tennis. Cela représente une originalité historique des internationaux de France et rend hommage à un pionnier et un héros. Né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis de la Réunion, Roland Garros était un sportif accompli. Bien qu'il n'ait pratiquement jamais joué au tennis, il s'est distingué dans des disciplines telles que le football, le rugby et le cyclisme. Ce dernier sport l'a même aidé à recouvrer des capacités respiratoires affaiblies par une pneumonie à l'âge de 12 ans. Diplômé de HEC et entrepreneur à seulement 21 ans, Garros a vécu un moment décisif en août 1909 lors d'un meeting aérien en Champagne. Il fut en effet captivé par les avions et décida d'apprendre à piloter. Il ne tarda pas à passer son brevet.
Il semblerait donc, comme vous le dites, que Roland Garros était très ambitieux, François, et il était surtout toujours en quête de records.
En effet, en 1911, à peine 2 ans après avoir adopté cette passion, il établit un record d'altitude en atteignant 3910 mètres. Les courses et les meetings aériens s'enchaînent et Roland Garros devient rapidement une vedette, attirant des foules en Europe et en Amérique du Sud. Son ambition ne connaissait pas de limite. Roland Garros voit en effet plus grand encore et veut survoler les mers. Il se lance un nouveau défi, traverser la Méditerranée, du jamais vu à l'époque. Le 23 septembre 1913, il va relier Saint-Raphaël à Bizerte, en Tunisie, sur son monoplan Morane-Saulnier en près de 8 heures, une épopée de quelque 780 km. Cet exploit fait de lui l'un des chouchous de tout Paris. Jean Cocteau, entre autres, devient son ami, le poète et cinéaste que Garros fait parfois voler, lui dédiera même un texte, Le Cap de Bonne Espérance.
Oui, mais voilà, François, en 1914, la Première Guerre mondiale éclate et l'implication de Roland Garros va définitivement le faire entrer dans la légende.
Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, l'armement des aéronefs est quasi nul ou presque. L'âme de précurseur et d'inventeur de Roland Garros va une nouvelle fois faire la différence. Il met au point le premier chasseur monoplace équipé d'une mitrailleuse capable de tirer à travers l'hélice. Une véritable révolution à l'époque. Début avril 1915, le sous-lieutenant Garros enregistre 3 victoires successives en 15 jours. Mais il est malheureusement touché par la DCA allemande au-dessus de la Belgique. Contraint de se poser, il est fait prisonnier avant d'avoir pu mettre le feu à l'avion. Son invention est donc tombée entre les mains de l'ennemi qui saura s'en inspirer. 3 années passent avant qu'il ne réussisse, déguisé en officier allemand, à s'évader tout en dégradant sa santé durant sa captivité. Malgré les obstacles, il retourne au combat, mais il trouve la mort le 5 octobre 1918 au-dessus des Ardennes après avoir remporté un 4e duel aérien.
Mais alors, maintenant qu'on a dit tout ça, pourquoi son nom est lié au tournoi de tennis, François ? Et puis, il y avait également une phrase qui est désormais célèbre, vous allez nous la dire, et qui est une inspiration pour les champions des internationaux de France, de Roland-Garros donc. Et Roland-Garros, l'homme n'y est pas étranger. Expliquez-nous.
L'adage « la victoire appartient au plus opiniâtre » résonne parfaitement avec l'esprit de Garros. Et il en avait fait même inscrire une version sur les hélices de ses avions. 10 ans après sa mort, en 1928, le stade de tennis, amené à servir d'écrin aux mousquetaires en vue de la défense de leur titre en Coupe Davis, a été nommé en son hommage, à la demande d'Émile Le Sieur, ancien camarade de Garros à HEC et président du Stade français. Ainsi, bien que ses liens avec le tennis soient ténus, peu d'endroits au monde portent le nom d'une personne ayant fait preuve d'une telle détermination, intelligence et courage, des valeurs cardinales pour ceux qui visent le titre suprême des internationaux de France à la porte d'Auteuil.
Merci beaucoup François Vantôme.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food.
Getting lost in your eyes, cotton candy haze, floating up in space. That's where I wanna stay.
Voilà, c'était le chanteur Red Sebastian représentant la Belgique à l'Eurovision avec son titre Strobe Lights. À savoir que la Belgique ne s'est pas qualifiée lors de la première demi-finale. Et la France, avec la chanson de Louane que nous avons entendue hier, la France, elle, est arrivée 7e. Restez sur SBS, on se retrouve dans un instant. On va parler de virilité, notamment du coût de la virilité, mais surtout comment il est calculé. Ça vous intrigue ? Réponse tout de suite sur SBS French.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
À l'occasion de la Nuit des idées qui se tenait à Melbourne le 1er mars, on a rencontré Lucille Pétavin, une historienne. Vous étiez là pour nous parler des fault lines. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que vous avez dit sur scène et pourquoi vous vous êtes rendue en Australie ?
Alors, je suis venue en Australie pour parler plus particulièrement de mon travail et notamment des questions d'égalité homme-femme parce que je suis experte dans ce domaine et plus particulièrement de l'étude que j'ai menée sur le coût de la virilité. C'est une approche économique, statistique, des conséquences financières de la masculinité toxique dans la société. Et à cette occasion, j'ai présenté quelques chiffres pour l'Australie.
Oui, parce qu'en mars dernier, vous avez publié un essai à ce propos-là qui s'appelle « Le coût de la virilité ». Le coût COUT, comme vous dites, c'est une question d'économie. Ça coûte combien alors la virilité ?
Alors pour la France, ça coûte 100 milliards d'euros par an. Donc c'est tout à fait colossal parce que les hommes sont surreprésentés dans la violence. Alors non seulement la violence qui est faite aux femmes, mais dans tous les types de violences. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, juste pour la France, 83% des mises en cause par la justice sont des hommes. 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes. Et les prisons sont remplies d'hommes puisque 96,3% de la population population carcérale est masculine. Et tout ça entraîne des coûts pour l'État en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, et puis pour la société parce qu'il y a des victimes et donc des souffrances physiques, psychologiques, des pertes de productivité, des destructions de biens. Et donc finalement, ce que j'ai essayé de calculer, c'est le surcoût que représente la violence masculine par rapport à celle des femmes, parce qu'on voit que les hommes commettent beaucoup plus de faits de délinquance, de criminalité que les femmes.
Si on résume ce que vous venez de dire, c'est la société paye cher le prix de la virilité. Mais déjà, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par virilité ? Et la société paye cher, donc là vous venez de parler des conséquences sur les victimes, sur les femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus, aller un peu plus loin dans votre raisonnement ?
La virilité, c'est une norme qui définit encore aujourd'hui dans notre société ce que doit être un vrai homme. Donc c'est un idéal normatif et c'est une notion qui rassemble les attributs de force, de puissance, à la fois physique et morale, et qui pousse les hommes à adopter des comportements de dominant. Et donc des comportements de violence, de discrimination, de non-respect des règles au détriment de l'ensemble de la société, des hommes et des femmes eux-mêmes. Et effectivement, quand on en paie un prix, alors on peut l'estimer financièrement, c'est ce que j'ai fait, mais on voit bien dans les chiffres par quoi ça se traduit dans le quotidien des citoyennes et des citoyens, par exemple. Voilà, en France, il y a les violences systémiques qui sont faites aux femmes. Les chiffres montrent qu'il y a une femme qui meurt encore tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Les hommes aussi paient un prix à cette virilité, parce que prouver sans cesse qu'on est fort moralement et physiquement tout au long de sa vie, par exemple en prenant des risques, eh bien ça a des conséquences très mesurables sur la vie des hommes. Par exemple, il y a des études qui montrent que déjà à l'âge de 14 ans, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. En France, 87% des morts sur la route sont des hommes. Et si on prend la population des hommes dans son entièreté, ils ont 2 à 3 fois plus de risque de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire lié à un comportement à risque, que les femmes. Donc, ce coût de la virilité, on le paye financièrement à l'échelle de l'État, à l'échelle des impôts que nous payons en tant que citoyens et que citoyennes, mais aussi dans notre quotidien par les violences, les prises de risque, notamment commises par les hommes, que nous subissons toutes et tous, finalement.
Et donc, la moralité de ce raisonnement, est-ce que c'est de dire qu'il faudrait se comporter davantage comme les femmes ?
Exactement. Alors, c'est pas qu'une question morale, c'est une question statistique. Tout mon travail se base sur des données officielles, c'est-à-dire produites par les ministères de la Justice, de l'Intérieur. Lorsque l'on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la moitié de la population, à savoir les femmes, qui représentent 51,6% de la population en France, en fait, les femmes qui sont une majorité mais traitées comme une minorité, eh bien, ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus altruistes, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Et cela parce que on les éduque peu ou pas à travers ces valeurs de virilité, ces valeurs de domination. Et donc effectivement, ces statistiques, si nous éduquions davantage les garçons comme les filles, eh bien, nous vivrions dans une société plus riche et plus apaisée.
Alors bien entendu, là on fait des généralités, tous les hommes ne sont pas violents et toutes les femmes ne sont pas non violentes.
Alors effectivement, il y a des femmes qui sont capables de violence au même titre que des hommes et des hommes qui sont pacifiques et qui le restent toute leur vie. Ce que nous montrent les datas en fait, c'est que bien sûr, tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, mais les chiffres nous montrent que l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et cela, c'est vrai dans tous les contextes, quelle que soit la zone géographique, la tranche d'âge, le milieu social, le niveau d'éducation. En fait, le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels, c'est le sexe, et dans l'immense majorité des cas, le sexe masculin. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut avoir en tête, parce que bien souvent, nous donnons des explications à la violence qui sont erronées. Bien souvent, nous allons par exemple expliquer la violence par la pauvreté, la discrimination, le contexte social, etc. Alors je ne dis pas que ces facteurs ne peuvent pas jouer un rôle, mais ce que l'on voit, c'est que les femmes aussi vivent dans la pauvreté, les femmes aussi vivent des discriminations, et même plus que les hommes si on prend en compte par exemple les écarts de taux d'emploi ou ou les différences de salaire. Et puis au niveau des discriminations, j'ai envie de dire que le sexisme quand même, 50% de la population le subit. Eh bien, dans une même situation, dans un même contexte social, les femmes commettent peu ou pas de violences comparées aux hommes. Donc ce n'est pas effectivement tous ces critères qui expliquent la violence. Et c'est pour ça qu'il faut avoir bien en tête, finalement, ce premier critère du sexe masculin qui définit le profil des délinquants et des criminels pour justement viser les véritables origines de la violence et pouvoir imaginer un jour des solutions pour vivre dans une société plus pacifique.
Et justement, avec l'évolution de la société, on est en 2024 aujourd'hui, vous trouvez que ça va dans le bon sens ?
Ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a effectivement des changements. Lorsque je donne des conférences auprès des jeunes générations, je vois qu'ils sont plus au fait des questions d'égalité entre les hommes et les femmes, de sexisme, etc. Par contre, il y a une étude du HCE qui est sortie en France très récemment, qui montre que finalement, même si ces jeunes générations sont plus au fait de ces questions-là, le sexisme est bien prégnant, et sur certaines questions, même plus que les anciennes générations. Donc, c'est quand même pas très bon signe. Et le problème, c'est que finalement, cette culture de la virilité, on voit aujourd'hui que la violence, elle s'exprime toujours de façon très importante et de façon très rapide dans l'éducation des garçons, avec les jeux qu'on va leur donner. Par exemple, en France, il faut savoir que dans les catalogues de jeux, dans 92% des cas, lorsqu'il y a une arme, elle est tenue par un petit garçon. Et juste ça, comment est-ce qu'on peut ne pas remettre en question que des jouets puissent avoir la forme d'une arme ? Et puis, dans les films, le fait qu'encore aujourd'hui, les héros qui s'adonnent à une violence qui est bien légitime souvent pour sauver le monde sont des hommes. Et les études montrent qu'il y a une appétence de la part des garçons pour cette violence, une identification à ces héros. Voilà, et on voit comme ça, pour ne citer que ces quelques exemples, que tout au long de la vie des garçons, il y a une acculturation à la violence et au rapport de domination. Et là, sur cette question par rapport aux violences que les hommes commettent envers les femmes, il y a un véritable apprentissage du mépris du féminin. Et ça, on le fait de façon systématique et on le fait toujours. C'est-à-dire que très tôt, on apprend aux petits garçons que être un homme, c'est surtout pas être une femme. Donc surtout pas de rose, surtout pas de couette, surtout pas de posture trop efféminée. Quand on va les comparer aux filles, on va leur dire « tu pleures comme une fille, tu cours comme une fille ». Donc voilà, ça va être de l'humiliation et les petits garçons vont comprendre très vite que le féminin est inférieur au masculin et cela crée inévitablement des comportements sexistes in fine. Donc je pense qu'à toutes les strates de la société, dans la famille, dans la culture, nous avons à enseigner d'autres valeurs aux petits garçons pour que in fine la violence baisse.
Mais dernière question pour vous, c'est le travail des politiques, des parents, des enseignants ?
Alors c'est le travail de toute la société. Je sais que ça peut paraître colossal et souvent on me dit « mais on va jamais y arriver ». Effectivement, les changements de mentalité sont toujours longs. Mais pour d'autres sujets, on peut voir quand même que les sociétés, elles peuvent avancer et avancer très vite. Alors sur les questions d'écologie, ok, ça a pris quelques temps, c'est pas parfait, mais enfin, aujourd'hui, on sait tous ce à quoi ça correspond. Prenons notre exemple, le Covid. En un claquement de doigts, du jour au lendemain, nous avons toutes et tous été confinés avec des changements de mentalité, par exemple sur le télétravail, parce qu'en France, c'était quelque chose qui était très mal vu. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est démocratisé du jour au lendemain. Donc, quand on veut, on peut. En plus, j'ai envie de dire, la solution, c'est ce que je disais, on l'a sous les yeux, on l'a, l'applique déjà pour la moitié de la population, à savoir les filles, donc faisons-le aussi pour les garçons. Après, oui, on est d'accord que ça se joue à toutes les strates. Ça se joue, les parents ont une responsabilité, l'école a une responsabilité, le milieu culturel a une responsabilité, les politiques ont une responsabilité, mais si on ne commence pas, on n'y arrivera pas. Là, on a justement, les statistiques pour nous, les conséquences financières, voilà, on ne peut plus fermer les yeux sur cette réalité, donc allons-y.
Lucille Pétavin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
parce que tu crois que tu es ma faiblesse. Tu me blesses, me meurtris. Je vais dire que nous deux, c'est fini, tu vois, et qu'enfin il ne reste que le geste de l'adieu.
Charles Aznavour, bien sûr, avec sa voix reconnaissable parmi toutes, avec la chanson « Parce que tu crois ». Sur SBS French, nous avons rencontré Andrew McKenzie et il nous parle de « Ainsi va la vie », le prochain spectacle de Panache Adelaide French Theatre qui aura lieu du 29 au 31 mai. Rencontre.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'avoir Andrew McKenzie pour parler du prochain spectacle de Panache Adelaide French Theatre. C'est Ainsi va la vie, présenté au Star Theatres du 29 au 31 mai. Et vous, Andrew, vous dirigez ce spectacle. Est-ce que c'est
oui,
une première?
Je suis le metteur en scène.
Ouais.
Je participe aussi au spectacle. Et c'est pas toujours une situation idéale. Mais on avait besoin de moi sur la scène, aussi bien que dans le siège du metteur en scène. Donc j'ai fait les deux choses. Et je dois dire que
c'est une première pour vous.
Dans nos spectacles, sont toujours une collaboration d'équipe en tout cas. Tout le monde a un avis là-dessus.
Alors racontez-nous ce spectacle, Ainsi va la vie.
Oui. Oui, c'est un spectacle. C'est le président de Panache, Jean-François Gavanon, qui a eu l'idée de prendre des chansons, de choisir des chansons qu'il aimait bien sur des thèmes différents et de les insérer dans un spectacle en les liant avec des petites scènes. On passe d'une chanson à une scène suivante qui mène à à la prochaine chanson, etc. Et il a tout situé dans un café, dans un bistrot. Donc vous avez les gens qui passent dans le bistrot, il y a les habitués, il y a la patronne, il y a la serveuse, les gens qui sont là. Et puis vous avez les gens qui sont de passage, qui passent par le bistrot, et chaque groupe de personnes là entame une conversation sur un sujet ou un autre, et cela mène après la discussion, cela mène naturellement à la prochaine chanson. Donc les chansons ont des thèmes différents en fonction de ce qu'on avait discuté avant. La solitude, le racisme, l'alcoolisme, l'amour, etc., etc. La religion, la nature, l'environnement, etc.
Combien de gens vous avez réunis sur scène pour ce
nous
spectacle?
Nous avons donc 8 acteurs, acteurs-chanteurs, parce que tout le monde chante aussi. Donc 8 acteurs-chanteurs et 2 musiciens, des professionnels. On loue des professionnels parce que les chansons sont assez difficiles et il nous faut ce support-là. Et c'est ça. Donc 4 hommes, 4 femmes. Pour les acteurs-chanteurs. Et on a des chansons où c'est un solo, on a des chansons où il y a 2 personnes qui chantent, on en a où il y a 3 ou 4 peut-être, et puis il y en a où tout le groupe chante, donc une vraie chorale, quoi, avec des harmonies.
Et est-ce qu'on peut savoir le nom des chansons que vous avez choisies?
Oui, bien sûr. Il y a 3 chansons de Michel Fugain. Je crois que Jean-François à un petit faible pour la musique de Michel Fugain, et on ouvre et on termine la soirée avec une chanson de Michel Fugain, comme On laisse tous un jour. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson là On laisse tous un jour un peu de nos amis sur la table d'un café, donc ça nous situe dans le café.
Ouais.
Et à la fin, la dernière chanson, c'est Ainsi va la vie. Et donc ça, c'est le clou, si vous voulez, de la soirée, et c'est le thème de la soirée. Donc c'est si on prend tout le spectacle, globalement, on voit que c'est une sorte de une tranche de la vie quotidienne. Les gens parlent des problèmes qu'ils ont, etc. Et les chansons reflètent ces préoccupations. D'autres musiques, il y a trois chansons de Jacques Brel, parce que nous avons Brel, donc on fait de Brel, on fait l'ivrogne. Et donc ça, c'est un des personnages a des problèmes avec l'alcool et je ne sais pas si vous connaissez la chanson l'ivrogne, ami remplis mon verre.
Ouais, ouais.
Et donc ça, c'est une très belle chanson. Il y a une autre chanson, les bonbons, que tout le monde connaît. Donc ça, c'est l'amour, mais l'amour où il n'y a pas de retour. C'est le pauvre homme avec ses bonbons que personne ne veut. Et puis il y a aussi une chanson, le moribond, est sur le thème de la mort. Donc voilà, des chansons assez noires, comme c'est parfois le cas avec Brel. Il y a « Tempête dans un bénitier de Brassens », il y a « Lily » de Pierre Perret, qui nous reflète une discussion sur le racisme, etc. Voilà.
Et le spectacle dure combien de temps?
Oh oui, je dirais que le spectacle va durer un peu plus d'une heure et demie, donc avec l'entracte, 2 heures.
Peut-on parler des informations clés de ce spectacle, où, quand et à quel moment?
Ah oui, d'accord. Le spectacle, c'est fin mai, le 29, 30, 31 mai, donc trois soirs de suite, là, à 19h30 chaque fois. Cette fois-ci, on ne fait pas de spectacle l'après-midi du samedi. Quelquefois, on fait ça, mais cette fois, non. Donc, trois spectacles ces soirs-là.
Ouais.
19h30 au Star Theatre, qui est sur Donald Bradman Drive à Adelaide. Les gens du coin connaissent bien ce théâtre, c'est bien connu. Star Theatre, et on est là. C'est notre maison habituelle, plus on fait presque tous nos spectacles là. Donc voilà.
On conseille aux gens de réserver assez rapidement.
Oui, oui. Je crois que Jean-François a bien choisi ses chansons.
Ouais.
Et puis il a bien réfléchi pour créer la petite sauce, si vous voulez, des scènes qui lient les chansons. Et donc c'est une soirée où on s'amuse, où on est triste avec les gens du café et la préoccupation de tous les jours. Voilà.
Et j'imagine que vous pensez déjà au prochain projet avec le comité de Panache.
Ah oui, oui, tout à fait. Bien sûr, il faut penser un peu en avant avec ces choses-là pour le théâtre. Et en novembre, on va présenter un spectacle, donc une pièce proprement dite. C'est pas une pièce musicale, comme on en fait très souvent. Mais en novembre, on fait une pièce sèche, si je peux dire. Et cette fois-ci, ça va être Piège pour un homme seul. C'est une pièce de Robert Thomas. C'est une sorte de drame mystère policier, c'est un drame policier, et comme avec Robert Thomas, il y a toujours une fin surprise, un dénouement surprise dans ces pièces, et c'est certainement le cas avec celle-là, Piège pour un homme seul. Mais ça c'est pour plus tard dans l'année.
Et j'imagine que vous invitez toujours les gens à venir se rejoindre à la troupe théâtrale.
S'il y a des gens qui s'intéressent au théâtre, ouais, que ce soit en coulisses, en construisant des décors, ou en technique, ou sur scène, ils sont toujours les bienvenus. Oui, oui, absolument. Oui.
Andrew McKenzie, merci à vous et bonne continuation.
Oui, et je vous remercie de votre attention et bonne continuation à vous et aux auditeurs.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant.
Voilà le titre Manhattan Kaboul, Axel Red et Renaud sur les ondes de Radio SBS. Hier, on vous présentait la première partie du podcast What's on SBS On Demand. Qu'y a-t-il comme contenu francophone sur la plateforme SBS On Demand en ce mois de mai? Eh bien, on vous propose tout de suite la deuxième partie. Et si vous n'avez pas entendu la première, eh bien, l'intégralité de ce podcast est à retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french. Watson SBS On Demand. Tous les mois, SBS vous propose une très large sélection de nouveaux films et séries sur sa plateforme de streaming gratuite. Pas toujours facile de s'y retrouver, c'est pourquoi nous vous proposons notre sélection de contenus francophones. Watson SBS On Demand, c'est un rendez-vous mensuel avec des synopsis, des interviews, des bandes-annonces de films, séries et même documentaires pour trouver quoi regarder sur SBS On Demand. Alors, que retrouver à partir du mois de mai? C'est parti! SBS On Demand vous propose trois autres films en ce mois de mai 2025. Mon crime, The Crime is Mine sur la plateforme, l'histoire d'une actrice sans le sou et sans talent, accusée du meurtre d'un célèbre producteur dans les années 30. Après avoir été acquittée, elle commence sa nouvelle vie faite de gloire et de succès, jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour.
Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate, nous devons 5 loyers. Demain nous serons à la rue.
Sûrement une bonne nouvelle.
Inspecteur de la Sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand?
Oui.
Monsieur Montferrand est mort.
Il a été assassiné.
J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie.
Monsieur Montferrand va sauter dessus.
Enfin, mademoiselle.
C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison?
Pas forcément. Légitime défense.
Alors c'est moi.
Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes.
Moi aussi. Enfin, des femmes.
Depuis quelques années, les femmes nous suppriment avec un sang en gêne.
Mais n'est-il pas possible, en 1935, de mener sa carrière, sa vie de femme, en toute égalité? Ta vie me semble si différente à présent. Décidément, ton crime fait des miracles.
Pour mademoiselle Verdier.
Encore?
En 40 ans, j'ai pas osé tuer mon mari. Si j'avais su...
Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes.
Bonjour mes poupées. Mais regardez-moi ce luxe.
Cette robe de chambre.
Eh bien, je vous en prie.
Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent.
Les coupables qui nient, c'est ennuyeux. Mais les innocents qui s'accusent, c'est exaspérant.
Je me demande si j'ai pas soudain perdu la notion du bien et du mal.
Quatrième film disponible, c'est Country Cabaret, ou Les Folies Fermières en français, l'idée folle d'un agriculteur qui monte un cabaret à la campagne pour sauver son exploitation de la faillite, et ce, malgré les critiques de sa famille.
Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore 2 mois.
6.
2.
4.
2.
Qu'est-ce que tu peux faire en 2 mois?
Je sais pas.
Rien. Tu peux rien faire?
Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la grande Bonnie Starlight.
J'ai quelque chose à vous proposer.
Ah bon? Bah, vous travaillez dans quel domaine?
J'ai un élevage de vaches laitières.
Je veux monter ce cabaret pour montrer que le Cantal est pas mort.
Avec vous, je peux y arriver.
Alors que les choses soient bien claires. Je ne participe pas aux travaux de la ferme.
Saucisson?
Non, rarement au petit-déj pour moi. 2, l'artistique c'est moi. Et 3, je ne couche pas.
Pardon.
À Pôle emploi, ils m'ont donné plein de contacts d'artistes géniaux de la région.
Donc l'idée, c'est de faire un cabaret ici.
Le premier cabaret à la ferme de France. J'ai cherché, il n'y en a pas d'autres.
Ah, faut peut-être se demander pourquoi. Hein.
Vous êtes le sosie de Dalida ?
Eh oui, Gigi, c'est moi.
Elle est pas mal, la grande blonde.
Faut vraiment que je te parle. Hein.
Nous vous attendons nombreux pour le premier cabaret à la ferme de France.
À David ? Voilà.
Et puis je suis fier de toi.
Ah, m'engueule pas.
Mais je t'engueule pas, je dis ce que je pense.
Est-ce que vous êtes chaud pour le show ?
Allez,
Et bien aussi incroyable que cela puisse paraître, Les Folies Fermières est bel et bien tirée d'une histoire vraie, celle de David Comette, agriculteur dans le Tarn, qui est parti du constat suivant. Depuis 2010, 27 fermes disparaissent chaque jour en France, dont un tiers en élevage, et plus de 350 agriculteurs se suicident chaque année, soit presque un agriculteur chaque jour. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais, a dit David Comette, campé par Alban Ivanov dans le film Les Folies Fermières. Et enfin, messieurs, dames, on vous propose le film Enquête sur un scandale d'État, Undercover en anglais, réalisé par Thierry de Peretti avec Pio Marmaille, Roche Dizem et Vincent Lindon. Ce film nous emmène en octobre 2015. Les douanes françaises saisissent 7 tonnes de cannabis en plein cœur de Paris. Et le jour même, un ancien infiltré des Stup contacte un journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l'existence d'un trafic d'État dirigé par un haut gradé de la police française. Le journaliste finit par plonger dans une enquête qui le mènera jusqu'au recoins les plus sombres de la République.
C'est quoi en fait votre statut au sein de l'administration ?
Infiltré. J'ai été témoin d'un trafic organisé au plus haut niveau.
Vous l'avez rencontré comment vous, Jacques Billard ?
Jacques Billard, patron des Stup.
On laisse passer les trafiquants aux frontières et on suit la drogue.
C'est quelqu'un que je considère comme mon frangin.
Il a fait de l'office d'État français, hein, donc, hein, le plus grand trafiquant du pays. Moi, j'ai été témoin de ça.
Qui pourrait croire un instant que la police française importe elle-même des dizaines de tonnes de drogue sur le territoire ?
On est ni dans de la corruption, ni dans une bavure personnelle. On est au-delà du scandale. Exact. On est vraiment sur une affaire d'État.
Si on sort quelque chose de cet ordre-là, il faut savoir qu'en face, ça va secouer.
Votre informateur a 7 tonnes de drogue dans des camionnettes, même pas fermées à clé, en plein Paris. Et comment ça veut rien ?
Quelque chose marche enfin pour lutter contre le trafic. Vous vous êtes de quel côté ?
Je suis ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que je suis ni un flic, ni un voyou, et encore moins un trafiquant.
Tous les SMS que j'avais avec lui viennent de s'effacer sous mes yeux, là. À l'instant.
Comment un tel trafic de stupéfiants a-t-il pu se monter au nez et à la barbe des hiérarchies ? Par complicité, complaisance ou incompétence ?
Tu vois pas que t'as tout le monde contre toi ? C'est toi qui te fais infiltrer par ton team.
Moi, je me fais infiltrer.
Et ouvre les yeux, poteau.
On va interpréter la République, voilà ce qu'on va faire.
Stop, on arrête là.
Tu sais les risques que je prends pour toi ? Comment tu vas t'en sortir cette fois ?
Enquête sur un scandale d'État se base sur le livre du journaliste Emmanuel Fonsten, titré « L'infiltré ». Voilà, messieurs, dames, pour notre sélection des sorties cinématographiques du mois de mai sur SBS On Demand. Mais bien sûr, certains contenus des mois passés sont toujours disponibles. Si vous ne l'avez pas déjà fait, foncez retrouver la sélection du mois dernier en avril sur SBS On Demand. C'est toujours disponible sur notre site internet ainsi que sur toutes les plateformes. Et les films et séries dont on y parle, tout est accessible gratuitement, on le répète, gratuitement sur la plateforme SBS On Demand et ce pendant encore plusieurs mois. Vous avez le temps, mais il y a tellement de contenu, on voudrait ne pas en rater une miette. Alors régalez-vous, messieurs, dames. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point sur les contenus francophones à retrouver sur SBS On Demand. Bon visionnage et à très bientôt.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Pour une lune de miel au San Salvador. Et
te faire l'amour en parlant liberté au milieu des mots, en comptant les corps. Mais Dieu, que l'amour est triste!
Daniel Balavoine, bien sûr, avec son titre « Dieu, que l'amour est triste ». Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi, même fréquence, même heure. D'ici là, je vous souhaite de passer un merveilleux dimanche après-midi. À très bientôt, au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.